écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
L'heure de votre journal en français facile. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Un journal que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir, Salman Rushdie hospitalisé dans un état grave après avoir été poignardé hier par un jeune homme d'origine libanaise lors d'une conférence aux États-Unis. L'auteur des versets sataniques était menacé de mort depuis plus de 30 ans.
Et puis, la guerre en Ukraine et de nouveaux tirs dans la région de Zaporijja. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir visé la zone de la plus grande centrale nucléaire d'Europe.
Dans ce journal, nous reviendrons également sur les incendies en France, avec un début d'accalmie dans les Landes notamment, mais la crainte d'orages violents à venir. Et puis nous irons au Parc des Princes pour du football. Le PSG reçoit Montpellier pour la deuxième journée de Ligue 1.
Le journal
en français facile.
24 heures après avoir été poignardé lors d'une conférence qu'il donnait dans l'état de New York, Salman Rushdie est toujours hospitalisé dans un état grave.
Et on n'en sait pour l'instant pas plus de l'évolution de son état de santé. Hier soir, son agent indiquait qu'il avait entre autres été touché au foie et qu'il allait probablement perdre un œil. On n'en sait pas davantage non plus sur les motivations de son agresseur et plus précisément si son geste est lié ou non aux écrits de Salman Rushdie, notamment ses très controversés versets sataniques. C'est ce livre qui avait déclenché la colère en Iran, l'Iran dont les dirigeants avaient appelé à tuer l'écrivain britannique d'origine indienne. C'était en 1989. Aujourd'hui, l'émotion est vive dans son pays d'adoption. RFI Londres, Sidonie Gaucher.
Un tsunami d'outrage, titrait ce matin le Guardian, en réponse à l'attaque de celui qui symbolise dans la presse occidentale la liberté d'expression et la lutte contre l'obscurantisme religieux. Boris Johnson s'est dit atterré que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu'il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre. Les autres membres du gouvernement ont également tweeté leur soutien au droit pour la liberté d'expression. Salman Rushdie est né en 1947 à Mumbai, 2 mois avant son indépendance de l'Empire britannique, et rejoint l'Angleterre à 14 ans, puis devient lauréat du Booker Prize en 1981. Mais dès la publication des versets sataniques, en 1988, le gouvernement anglais lui offre la protection d'un garde du corps face au danger que représente la réaction de milliers de musulmans qui brûlent ses livres à Bradford, près de Manchester. En 2007, il est anobli par la reine Elisabeth II. Cela provoque la colère du Pakistan qui exige le retrait de ce titre et brûle les effigies de la reine et de l'auteur. L'écrivain s'apprêtait à publier son prochain opus sous le nom de plume Joseph Anton, en référence à ses héros littéraires Joseph Conrad et Anton Chekhov. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Et d'une manière générale, les pays occidentaux condamnent tous la tentative d'assassinat sur Salman Rushdie. Un acte de violence consternant, selon la Maison Blanche, au contraire des médias iraniens qui applaudissent, je cite, la personne courageuse qui a attaqué le démon Salman Rushdie à New York. Fin de citation. C'est ce qu'écrit notamment le journal Rayan, dont le rédacteur en chef est nommé par le guide suprême iranien.
La manifestation n'aura duré que quelques minutes. En Afghanistan, les talibans ont dispersé un rassemblement de femmes ce samedi à Kaboul.
Une quarantaine de femmes qui s'étaient regroupées pour réclamer le droit au travail et l'éducation, ce qui leur est interdit depuis un an, et la prise du pouvoir par les islamistes. Un groupe de combattants talibans a mis fin à la manifestation en tirant en l'air quelques minutes après le début de la marche, justement à l'occasion de ce premier anniversaire du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. RFI sera en édition spéciale ce lundi à partir de 6h temps universel.
À la une également, la guerre en Ukraine et cette nouvelle passe d'armes autour de la centrale nucléaire de Zaporijja.
Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir tiré dans le périmètre de la centrale occupée par la Russie et visée à plusieurs reprises depuis une semaine, ce qui fait craindre une catastrophe nucléaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni jeudi sur le sujet. Et puis concernant justement Zaporijja, on s'intéresse à présent aux conséquences sur la population d'un possible rattachement à la Russie. Les autorités pro-russes de la région ont annoncé cette semaine un possible référendum dans ce sens. Sur place, les agriculteurs qui sont en pleine récolte vivent encore entre deux marchés. Un nouveau statut de la région pourrait donc tout changer. Écoutez le reportage d'Anissa El-Jabri lors d'un voyage de presse organisé par l'armée russe.
Voici notre oignon. C'est un oignon d'hiver qu'on cultive pour les stocks. Là, il a encore besoin de 3 semaines avant d'être récolté. Habituellement, on le ramasse fin août, début septembre.
Entre deux allées de terre, Natalia, t-shirt et cheveux blonds ramassés en arrière, fait la visite de son exploitation au sud de la région de Zaporijja, à quelques dizaines de kilomètres de Mélitopol. Dans sa ferme éloignée des combats, elle a toujours pu, ces 6 derniers mois, cultiver et désormais récolter. En ce moment, pour elle, c'est la pleine saison des pastèques, mais cette année, les débouchés sont plus compliqués.
On a perdu beaucoup de clients de Dnipropetrovsk, de la région de Kharkiv. Des clients qui ne peuvent plus venir chez nous maintenant. C'est là que réside la difficulté. C'est très dur cette année, mais il faut bien s'accrocher.
Natalia dit avoir beaucoup perdu, même si elle a pu exporter vers le Donbass russe. Les nouvelles autorités locales disent-elles être très engagées dans la recherche de nouveaux marchés. Anissa El-Jabri, Akimovskaya, RFI.
Il est 23h06 en Israël et en Cisjordanie. Une semaine après les raids de l'armée israélienne sur Gaza, l'enclave palestinienne est une nouvelle fois confrontée au défi de la reconstruction.
Et lors d'une conférence de presse, le vice-ministre du Logement et des Travaux publics à Gaza, Naji Sarhan, a déclaré que plus de 1750 logements avaient été détruits ou endommagés. Selon le Hamas, le Qatar a accepté de reconstruire ces habitations. Les précisions de notre correspondant dans le Golfe, Nicolas Quérodra.
Le Qatar devrait une fois de plus participer à l'effort de reconstruction de la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'a annoncé vendredi Ismaël Haniyeh, sans donner plus de détails. Le chef du bureau politique du Hamas a par ailleurs tenu à remercier l'émir du Qatar. Cette initiative s'ajoutera selon lui au bilan honorable du comité qatarien pour la reconstruction de Gaza. Le Qatar, proche de ce mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, est en effet l'un des principaux bailleurs de fonds sur ce territoire. En mai 2021, au terme des bombardements israélien sur Gaza pendant une dizaine de jours, le petit émirat du Golfe avait déjà promis d'engager 500 millions de dollars. Doha distribue également une aide financière pour notamment contribuer au fonctionnement de la seule centrale électrique de Gaza, mais aussi pour payer les salaires des fonctionnaires et aider les familles dans le besoin. L'année dernière, cette aide avait été bloquée pendant plusieurs mois par Israël. Son versement avait finalement pu reprendre en septembre dernier après la mise en place d'un nouveau mécanisme de transfert financier. Nicolas Quérodrin, Dubaï, RFI.
Retour en France où les pompiers sont toujours mobilisés face aux incendies, notamment en Gironde, dans les Landes et en Bretagne.
Et avec le soutien de leurs collègues européens, 16 départements sont toujours en vigilance orange canicule avant l'arrivée d'orages et de pluies par l'ouest. Ce soir, la fraîcheur et l'humidité pourraient toutefois devenir contre-productives avec le risque d'inondation. C'est ce qu'indique la sécurité civile, Zéphirin.
Et on passe au football, Loïc, avec la deuxième journée de Ligue 1 et la rentrée du PSG sur sa pelouse du Parc des Princes.
Un premier match à domicile pour les Parisiens, première également pour leur nouveau coach Christophe Galtier. Le PSG qui accueille Montpellier et, dans la tribune de presse, notre envoyé spécial, Martin Guez. Bonsoir Martin.
Bonsoir Loïc, bonsoir Zéphirin. Vous tombez très très bien.
Le PSG a fini par trouver la faille, semble-t-il, face au 0T.
Exactement, Loïc, ils ont même bien trouvé la faille puisqu'ils viennent de marquer un troisième but, une tête plongeante signée Neymar Junior, alors que la rencontre venait de reprendre. Vous l'entendez peut-être derrière moi, le speaker qui annonce le troisième but de PSG, le deuxième but pour Nascimento Santos Junior. Voilà celui qu'on connaît mieux sous le nom de Neymar, qui fait une superbe rencontre. Il est dans tous les bons coups. Il avait commencé très très fort alors que son équipe a buté pendant longtemps sur Jonas Omlin, le gardien suisse des Héraultais, qui a sorti un pénalty de Kylian Mbappé, qui a sorti un beau coup franc de Lionel Messi, ou encore une nouvelle frappe du gauche du même Argentin. Mais ça a fini par passer pour le PSG, une frappe contrée de Kylian Mbappé contrée par Falay Sakho, le malheureux défenseur défenseur malien qui a dévié dans ses propres buts à la 40e. Neymar qui a rajouté un pénalty à la 43e. Et puis vous venez de l'entendre, on joue la 50e minute. Une tête plongeante du Brésilien qui a donc marqué un doublé dans cette rencontre. Il en est à 3 buts et 3 passes décisives en 2 matchs.
Martin Guez en direct du PSG avec Enfant. Vous l'avez entendu, les chants des supporters parisiens. RFI, il est 22h10 ici à Paris.